Oui, salut Carl, bon lundi.
Salut LP, comment vas-tu?
Ça va très bien. Écoute, on commence la semaine, entre autres, avec l'histoire de la rue Jacques-Cartier. Tu as probablement entendu l'entrevue avec
Oui.
Daniel Champagne. Ça, c'est un volet, là. Il y a de plus en plus de villes qui s'en vont vers des rues bloquées en partie aux automobilistes. Il y a aussi la question du télétravail, ce qui t'amène à te poser la question suivante. Quel est l'avenir de nos centres-villes?
Mais effectivement, écoute, on le voit, là, il y a des décisions qui sont prises par les autorités qui forcent les gens à prendre des décisions pour eux-mêmes. J'entendais Stephen McKinnon parler que on n'aura pas le choix de rouvrir les bureaux, que les gens vont devoir retourner travailler parce qu'on crée des, on a une meilleure créativité, etc. Sauf que il y a des compagnies comme Shopify qui, elle, a décidé de fermer ses bureaux au moins jusqu'à 2021 et garder tout le monde en télétravail. Donc, on crée des habitudes, d'une part. D'autre part, si les gens avaient l'habitude d'aller travailler en transport en commun, présentement, c'est pas l'idéal, c'est pas
C'est
très
pas très
tentant.
tentant, non, on s'entend
Hein?
là-dessus, oui.
Alors, et les gens, bon, qui sont en mesure de faire du télétravail, qui le font présentement, ben, ils sont en train aussi de développer des méthodes de travail qui, à long terme, peuvent devenir beaucoup plus agréables que de aller se perdre dans le trafic pendant des heures. Alors, c'est une transformation. La question, c'est est-ce que ça sera temporaire ou est-ce que ça sera plus permanent? Mais du côté de Shopify, on a montré l'exemple. Il y en aura d'autres qui vont suivre. C'est le gouvernement
Assurément,
fédéral.
oui.
Ben oui. Et le gouvernement fédéral a entrepris un virage il y a quelques années, là, où on partageait les cubicules, où il y avait comme une rotation d'employés qui partageaient les postes de travail. Il y a d'autres entreprises qui font ça. Oubliez ça, c'est terminé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On rebâtit, on rouvre des bureaux, on investit dans le béton comme ça pour ce modèle qui semble de plus en plus passé de date, où on se transforme vraiment en télétravail. Et si c'est le cas, ben comment on gère la circulation dans les rues parce que les flots vont être complètement changés. Et c'est ce qu'on voit là dans le dossier de la rue Jacques-Cartier. On a pris une décision parce que il y a des résidents notamment qui disaient que il y avait trop de circulation sur la rue. Et la solution de la ville, ça n'a pas été de faciliter la vie aux résidents, ça a été de faciliter la vie aux promeneurs.
Ouais.
Alors ça, c'est intéressant comme décision. Tu sais, LP en
C'est pas
politique,
que
il y a
le
toujours.
projet est pas intéressant, c'est encore une fois dans le processus. Puis là, je comprends qu'on est en genre de situation d'urgence là, mais tu sais, j'ai l'impression qu'on leur enfonce ça dans la gorge sans même les avoir informés. Le communiqué a été envoyé vendredi, puis il y en a plusieurs qui l'ont appris juste en fin de semaine, ce qui a forcé Mme Nadeau à organiser un genre de conférence sur Zoom avec des commerçants et des citoyens dimanche
Ouais.
après-midi.
Du rattrapage, là. On faisait du
Ben là.
rattrapage. Selon ce que j'ai lu dans le droit, Myriam Nadeau a dit que elle avait été interpellée par plusieurs commerçants et résidents du coin pour fermer la rue. Mais moi, ce que j'aurais peut-être compris de ça, il faudra voir là, si elle s'expliquera, c'est fermer la rue aux gens qui ne sont pas du secteur, qui viennent utiliser pour la promenade. Ben non, en politique, c'est la balance des inconvénients. On va faire un choix politique et situation d'urgence ou pas, il y a des gens qu'on choisit d'abandonner. Et dans ce cas-ci, ça semble être les résidents. Il y a quoi sur ce tronçon-là, là, quoi? 50, 60 maisons, peut-être? Alors, tu
Ben
fais ça, tu fais le
le
calcul.
petit bout qu'on fermerait complètement, là, de ce que je
Ouais.
comprends, c'est même pas ça, là. C'est peut-être
Bon, tu vois.
15-20 maisons.
Alors, tu sais.
De ce que j'en comprends, là, on va essayer de trouver des solutions pour ces gens-là.
Alors, tu vois, 15-20 maisons, d'urgence sanitaire ou pas, il y aura des élections. Qui on veut fâcher? 15-20 résidents ou les centaines, les milliers qui utilisent ce tronçon-là, qui veulent en bénéficier parce qu'on veut être sur le bord de l'eau? Parce que, tu sais, la question de l'exercice physique, c'est bien beau, mais juste en arrière, il y a un grand parc où il y en a bien de l'espace. Mais c'est pas sur le bord de l'eau. Alors, les gens vont sur le bord de l'eau. C'est pour ça qu'on a aménagé le tracé pour le sentier, hein? C'est parce que c'est agréable. Et donc, on a pris une décision. Mais comme tu dis, dans le processus qui a eu cours. On peut pas se cacher derrière les situations d'urgence. Il y a une autre situation à Montréal par rapport au boulevard Saint-Laurent qu'on rend piétonnier entre plusieurs sections. Ça met également en péril certains commerces qui se fient sur le trafic automobile, notamment parce qu'on doit faire appel au service de cueillette. Hein? On n'est plus là maintenant à se promener d'un magasin à l'autre. On fait notre commande, on va la chercher en auto, on débarque, on la ramasse, on s'en va. C'est
pas
plus la
monde,
même chose.
Pas tout le monde qui veut ça. Puis moi, c'était un peu ça mon point dans l'entrevue avec M. Champagne. Ça prend une réflexion derrière des changements comme ça. On groche pas ça d'en face des personnes concernées. Puis peut-être que c'est une avenue très intéressante, mais il faut quand même être un peu prudent.
Et il faut être très prudent parce qu'il y a des conséquences. Et puis, on entendait les témoignages des gens là qui hein, une dame en particulier qui parlait d'un deuxième confinement. Mais c'est sûr, ça fait 2 mois qu'elle est prise chez elle, elle peut pas sortir. Puis là, on lui dit, ben tu pourras pas sortir avec ta voiture par la rue Jacques-Cartier, il faut que tu fasses le tour par en arrière. Des questions de mobilité, bon, est-ce qu'on va trouver des solutions? Est-ce qu'on va réussir à plaire à tout le monde? Clairement, non.
Moi, j'écoutais ça, puis je me disais, tu mets la rue circulation locale seulement pour cet été, maximum 20 km/h. Les piétons marchent sur l'espèce de sentier multifonctionnel. Les vélos peuvent être dans la rue avec les voitures. À 20 km/h, quelques voitures seulement, je pense pas que ça serait un gros problème.
Ou tu pourrais simplement enlever le stationnement dans la rue, hein, l'interdire, et conserver l'accès aux maisons, comme tu viens de démontrer, avec une limite de vitesse réduite. Il y a peut-être d'autres solutions. Des fois, on veut agir vite parce que en crise sanitaire, on a des fois l'impression que les gouvernements agissent trop lentement. Là, on constatait un problème, c'est-à-dire de incapacité de distanciation physique sur la rue Jacques-Cartier. On a trouvé une solution. Il y a des malcontents. On verra si on saura s'adapter et faire preuve de flexibilité.
Ça va être à surveiller. En terminant, Carl, est-ce que la situation est sous contrôle en Ontario?
Je me pose des questions, LP, en regardant les chiffres à nouveau en Ontario aujourd'hui. On est au-dessus de 400 cas. Ça fait 5 jours consécutifs qu'on n'a plus de 400 cas, alors que on avait eu 10 jours consécutifs avec moins de 400 cas, une tendance à la baisse. Là, on est reparti vers la hausse. La ministre de la Santé, Christine Elliott, qui a dit, ben, c'est à cause de la fête des mères. Il y a trop de personnes qui n'ont pas respecté les règles et ça crée une éclosion supplémentaire de cas. Il y a aussi le problème des tests. Hein, l'Ontario, qui était censé tester 16 000 personnes par jour, Doug Ford, là, le 8 avril, avait fait ça, de ça son objectif pour le mois de mai. Mais jusqu'à maintenant, au mois de mai, là, sur les 24 jours qu'on a, on a atteint cet objectif-là seulement 10 fois. Hier encore, c'était à peine la moitié de ces 16 000 tests-là qui ont été complétés. Alors, on a un problème en Ontario. La tendance ne va pas dans le bon sens.
Mais oui, mais pour moi, c'est juste logique, Carl, là. À partir du moment où on déconfine de plus en plus, il y aura de plus en plus de cas.
Ben oui, c'est sûr. Et c'est là la question. Est-ce qu'on déconfine trop rapidement? Est-ce qu'on déconfine trop tôt? Parce que si
ça
on n'est pas capable...
Ça dépend ce qu'on veut. Peut-être qu'on veut essayer d'aller chercher une certaine immunité collective en même temps de relancer l'économie. Tu sais, je suis pas sûr qu'on est toujours clair sur les objectifs réels des décisions qu'on nous annonce.
Et les objectifs changent de temps en temps. Tu parles d'immunité collective.
Oui.
François Legault justifiait la réouverture prochaine en parlant de cette immunité collective. Puis la fin de semaine après la fin de semaine, c'est-à-dire, l'immunité collective était disparue du discours du gouvernement. Alors, quel est l'objectif? Ben, l'objectif premier demeure, d'après moi, pour tous les gouvernements, de s'assurer que le système de santé ne soit pas complètement submergé par une hausse de cas.
Exact.
Est-ce que la réouverture graduelle permettra d'étaler cette courbe, ou si on aura des pics comme on a eu à la mi-avril, là, avec plusieurs centaines de décès. Et écoute, au Québec, on approche le 50 000 cas, mais la tendance est à la baisse. Est-ce qu'elle va continuer dans ce sens-là? Pour l'instant, en Ontario, là, les signaux sont pas très bons.
Merci, Carl.
Salut, LP.
Bonne soirée, à demain.